Entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8.
Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Radio Balade qu'on remercie chaleureusement de nous accueillir pour cette émission. Aujourd'hui, nous sommes avec Fred, Émilie, une bateau-stoppeuse, et Manu de la recyclerie de Quillan. Donc, on va parler de choses donc bien différentes, à la fois du bateau-stop, de la vie sans argent, et aussi donc des recycleries, quelles sont les différences notamment avec une gratuiterie, les points communs, les points de convergence. Donc, Émilie, tu es arrivée à la gratuiterie, tu as débarqué, et donc tu es ce qu'on pourrait appeler une auto-stoppeuse, bateau-stoppeuse, voilà. Donc ça, on est content que tu viennes nous parler un peu de ce mode de transport, et puis comment tu fonctionnes par rapport à ça.
Avec grand plaisir. Du coup, j'ai commencé l'autostop en 2019, juste avant le Covid, parce que je voulais aller voir une amie qui habitait à Budapest, et j'étais étudiante, j'avais pas nécessairement beaucoup d'argent, et donc je me suis demandé quel était le moyen d'y aller quand même sans devoir payer un billet d'avion. Et donc c'est comme ça que ça m'est venu l'idée de commencer à voyager en autostop. Et puis, dès que je voyage seule, je voyage en autostop et en allant dormir chez l'habitant, parce que c'est un moyen de quand même voyager et d'être entouré de personnes tout au long de la journée, même si c'est pas des amis, mais ça permet quand même de rencontrer du monde et de voyager un peu de manière alternative.
D'accord, donc c'est à la fois il y a une dimension pratique entre guillemets, dans le sens où ça te permet comme tu dis, de rencontrer du monde, de voyager différemment, et aussi un aspect financier, quoi, économique.
Forcément.
Lequel prime selon toi?
Quand j'ai commencé, c'était surtout d'un point de vue financier, parce que entre guillemets, j'avais pas le choix. Maintenant, j'ai le choix et c'est quand même un type de voyage que je privilégie parce que je rencontre plein de gens, que j'ai l'occasion de discuter avec des gens que j'aurais jamais rencontré autrement, qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont pas du tout mon âge, qui ont pas les mêmes vécus. Et en fait, ça me permet à chaque fois, quand je voyage comme ça, j'ai l'impression de grandir d'un coup. Parce que j'échange énormément, que quand je rentre ensuite chez moi, je rentre avec plein d'idées, avec plein de projets, plein d'envies. Ça m'apporte beaucoup plus que de voyager à l'hôtel, quoi.
Ça te permet de te nourrir de toutes ces rencontres, quoi.
Exactement. Mmh.
Et quelle différence tu ferais avec d'autres manières de voyager? T'as déjà expérimenté, j'imagine, des choses plus conventionnelles, moins marchandes, entre guillemets.
Oui, bien sûr. Quand je voyage encore avec des amis, on va en auberge de jeunesse ou à l'hôtel ou dans les Airbnb. Mais c'est très différent parce que du coup, c'est très cool aussi, mais on rencontre beaucoup moins de personnes. Déjà, on a du coup tendance à rester entre nous. Mm-hmm. Et puis, les rapports ne sont pas du tout les mêmes quand ils sont monnayés.
Ah oui, c'est intéressant ça.
Mm. Ouais. C'est que,
tu sens vraiment une différence. Ouais.
Bah oui, parce que... déjà, en fait, le fait de voyager sans argent, les gens sont intéressés. Ça va initier une discussion directement qu'il n'y a pas, en fait, quand tu vas à l'hôtel, le réceptionniste va jamais te demander « Bon, qu'est-ce que tu fais là ?» et donc, il n'y a pas de discussion, en fait, dans ce genre de voyage. Après, on peut quand même... rencontrer du monde et ça n'empêche pas d'aller discuter avec des gens, mais c'est pas du tout pareil, quoi.
Mmh. Alors du coup, t'as poussé l'autostop un peu plus loin, parce que tu as même fait du bateau-stop, c'est ça ? Là, tu reviens d'ailleurs d'un voyage d'une transatlantique.
Oui, voilà, en bateau-stop. C'est ça. Mmh. J'étais en Martinique. Donc je suis allée en Martinique en avion et le but de ce voyage c'était précisément de faire une transatlantique en voilier. Et donc voilà, quand je suis arrivée, j'ai cherché par tous les moyens un bateau pour rentrer en métropole. Et donc pour ça il y avait deux options, c'est aller dans les ports et demander directement aux gens si ils ne cherchent pas un équipier sur leur bateau. Ou alors, sinon, il y a un site qui s'appelle La Bourse aux équipiers. Il y a aussi un groupe Facebook avec des gens qui sont soit à la recherche d'un bateau, ou alors des personnes qui ont un bateau et qui sont à la recherche de gens pour compléter leur équipage. Et donc, moi, j'ai réussi à trouver un bateau comme ça. J'ai répondu à une annonce de quelqu'un qui voulait faire un convoyage de Saint-Martin jusque la métropole, et donc il cherchait des équipiers. J'ai répondu à cette annonce et du coup j'ai été prise sur le bateau et voilà, et donc la traversée a duré un mois depuis Saint-Martin.
Mmh. Quand même, hein. Alors finalement là tu combines à la fois l'autostop et l'hébergement gratuit dans le sens où tu vas habiter avec les personnes pendant un mois, dans un endroit plutôt d'ailleurs étroit, enfin c'est exigu, quoi, je veux dire.
C'est ça.
Là-bas. Bon, ça dit, apparemment tu étais sur un grand bateau, hein, tu m'avais...
Oui, j'étais sur un bateau, un ML64 pour les connaisseurs. et oui, en fait c'est ça, on est hébergé et nourri pendant un mois, et en échange, on travaille sur le bateau, on fait à manger, on s'occupe du bateau, on le nettoie, et puis quand il faut mettre les voiles, on met les voiles, et voilà, quoi.
Alors j'imagine, est-ce que vraiment il y a une division des tâches où c'est un peu tout le monde participe, enfin, tu vois ce que je veux dire, en même temps tout le monde va faire les manœuvres, tout le monde...
Alors ça, je pense que ça doit dépendre du capitaine, ça doit dépendre de l'équipage et puis des compétences de chacun.
Oui.
Parce que du coup moi c'était la première fois que je montais sur un voilier de ma vie. Et donc du coup
pas mal pour une première fois.
Pas mal, ouais. Et donc du coup, j'avais pas les compétences pour faire certaines choses. Donc surtout au début, je faisais principalement la cuisine, le ménage. Et puis par contre, tout le monde fait ses quarts. Donc faire un quart, ça veut dire que tu t'occupes, t'es à la barre et tu t'occupes de vérifier que le bateau ne fonce pas dans quelque chose. Et donc nous c'était des quarts de 3 heures à chaque fois. Et donc pendant 3 heures tu regardes la mer, tu prends les jumelles, tu vérifies que voilà, il n'y a pas d'obstacle, qu'il n'y a pas de bateau autour, tu regardes sur le radar si tout se passe bien, et si tu as le moindre doute, tu dois aller chercher le capitaine, le réveiller, et donc voilà, ça c'est tout le monde fait ses quarts, autant le capitaine que les équipiers, et après chacun a un rôle un petit peu différent sur le bateau en fonction de ce qu'il sait faire et de ce que le capitaine lui demande de faire aussi, parce que les équipiers Voilà, on n'est pas censé prendre des décisions comme ça sans en informer le
capitaine. Il faut capitaine. Pas qu'il y ait une mutinerie, quoi.
C'est ça.
Oui. Oui, mais oui, Fred.
Ouais, vous étiez combien sur le bateau ?
Alors, on était 4.
4.
Donc, il y avait le capitaine et 3 équipiers. Donc, moi, j'étais la seule qui ne savait vraiment pas faire de voile de base. Et ensuite, il y avait une personne, un jeune de 26 ans, Thomas, qui lui a un bateau. Il s'est acheté un bateau il y a quelques années et il est architecte naval. Donc lui s'y connaissait très bien. Quand il y avait un petit peu de mécanique à faire, le capitaine l'appelait et puis ils faisaient ça un peu tous les deux. Et il y avait une autre personne, Laurent, qui a fait aussi quelques convoyages et qui s'y connaissait aussi un petit peu en voile, quoi. Et voilà, qui aidait pour les manœuvres quand on arrivait dans les ports ou ce genre de choses, quoi.
Et alors, on parle souvent, donc, et à mon avis, c'est un point intéressant à discuter autour de la gratuité, la mer comme un espace de liberté, où justement, il y a quand même une différence avec, on va dire, le monde terrien, entre guillemets, avec beaucoup plus d'éléments de gratuité, on pourrait dire. Est-ce que tu l'as ressenti, ça, ou un peu...
C'est-à-dire, tu penses à quoi ?
Alors, je pense, par exemple, bon, au fait que les mouillages soient gratuits, souvent, enfin, ça dépend peut-être des régions du monde, mais... le littoral, on peut pêcher librement, ce qu'on peut pas faire d'ailleurs.
Il n'y a pas besoin d'essence pour naviguer.
Théoriquement, il n'y a pas besoin d'essence pour naviguer. Bon, ça, je sais pas, vous mettiez souvent peut-être le moteur de temps en temps.
Oui, ouais. on a quand même mis le moteur, surtout sur un Amel qui est très gros, avec même si les voiles du coup sont grandes, pour le faire avancer, voilà, il faut beaucoup de vent, donc. Les jours où il n'y en avait pas, on était obligé de mettre le moteur.
Enfin bon, ça... Quelque part, c'est une façon de traverser qui est plutôt économe, quoi, aussi.
Oui, ouais, c'est sûr.
Tant qu'il n'y a pas de péage.
Ouais. Ouais. ça, j'y avais jamais pensé, en mer... Il y a vraiment moyen de manger gratuitement grâce à la pêche... et de se déplacer.
Vous avez pêché ou pas ?
On a pêché 2 poissons.
Ah !
Je dis « on », moi j'ai rien fait. mais oui, il y a eu 2 poissons de pêcher. Par rapport à sur Terre, c'est sûr que c'est un autre monde en fait. On a vraiment l'impression d'être dans une bulle. Et puis, que tu fais un petit peu ta vie, c'est sûr que tu peux te débrouiller. Si tu veux ne jamais mettre un pied à terre ne jamais rencontrer du monde et ne jamais rien payer, en soi, c'est possible si tu passes ta vie à manger du poisson
des
et
algues.
Dans les mouillages. C'est faisable. Après, est-ce que c'est souhaitable ? Je sais pas. Mais c'est vrai. J'avais jamais pensé. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'essence non plus, quoi.
Oui.
Donc, ouais.
Bon, même si... alors, pour les entrées au port, il me semble que le moteur est obligatoire maintenant.
Ouais.
Mais bon, on peut quand même se débrouiller sans.
Ouais.
Ouais, donc, espérons que la mer reste un bien commun.
Ouais.
Parce que c'est aussi ce qui permet des expériences... gratuite aussi, et de ce que tu sembles me dire, c'est quand même des façons de s'organiser un peu différentes. Par rapport à... Tu fais aussi de l'autostop.
Oui.
Pas mal, hein. Ouais.
Ouais. J'en suis à environ 5000 km d'autostop.
Ah ouais, quand même.
Ouais.
T'as bien compté.
Et tu m'as parlé d'une application qui me paraît intéressante, Itchwiki.
Oui, c'est ça. Itchwiki, comment ça fonctionne ? C'est un site sur lequel tu tapes le nom de la ville, soit dans laquelle tu veux rentrer, soit dans laquelle tu veux sortir. Et en fait, c'est plein de témoignages de personnes... qui vont te dire si tu veux aller dans telle direction, il faut que tu te mettes à tel endroit, et donc plein de Plein d'astuces comme ça pour soit rentrer dans une ville, soit en sortir. Et puis il y a même des gens qui mettent des photos, des spots de bons spots pour faire de l'autostop. Et du coup, c'est régulièrement mis à jour par des autostoppeurs.
C'est participatif.
C'est participatif. Ouais. Et voilà, des gens qui disent bon bah moi j'y suis allé à tel moment, tel endroit, et puis il y a 2 ans c'était un bon spot, et puis aujourd'hui soit le spot n'existe plus parce que il y a une construction dessus, soit les autostoppeurs ne sont plus pris en stop pour X raisons. Ça évolue pas mal, c'est participatif, et puis...
C'est francophone ? Enfin, il y a une partie en français, ou...
Je sais même plus. Moi, je l'utilise en anglais.
D'accord.
Je sais même plus s'il y a une partie en français ou pas. Mais je crois, ouais. Il me semble, ouais.
Ah ouais, c'est international ?
Bah, moi, j'utilisais ça pas mal quand je suis allée à Budapest, et j'étais étonnée que même dans des petites villes, entre guillemets, j'avais utilisé pour Stuttgart, par exemple, ou Salzbourg, c'est en Autriche. Et donc voilà, c'est pas des super grosses villes hyper connues, et pourtant, il y avait des gens qui avaient fait du stop là-bas.
Et alors, un dernier point, bien souvent on dit, moi je fais pas de stop, je suis une fille, je suis une femme, ça me fait peur. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Est-ce que tu penses que c'est un moyen plutôt safe de voyager, toi, au contraire ?
Justement, c'est, en tant que femme, c'est une question qu'on se pose, c'est sûr. Avant que je commence à faire du stop, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais non... ne fais pas, c'est dangereux parce que t'es une femme. Et donc c'est une question que je me suis posée, de me dire est-ce que je devrais m'interdire de voyager comme un homme parce que je suis une femme. Et donc je me suis dit que non. je le fais pas de manière inconsciente. Déjà je me suis un peu renseignée, j'ai lu pas mal de blogs, j'ai discuté avec des nanas qui faisaient pas mal de stops, et dans des pays pas nécessairement européens même. Et donc il y a quelques règles entre guillemets à respecter, donc faut pas mal se faire confiance en fait, faire confiance à son instinct et se dire que si tu sens pas de monter dans une voiture, tu montes pas en fait.
Voilà, on a toujours le choix quand même.
Ouais, voilà, ouais. T'as toujours le choix.
Important,
Et pareil, c'est pas parce que y a quelqu'un qui s'arrête que t'es obligé de monter dans sa voiture. Et quand bien même tu montes dans sa voiture, si à un moment ça se passe mal ou que tu le sens pas, t'es pas non plus obligé de faire tout le trajet avec.
Ce qui est plus difficile en bateau stop.
Ce qui est plus difficile en bateau stop.
Surtout dans une transatlantique.
C'est vrai. Oui, bateau
stop. Il y a toujours
stop,
la solution de l'annexe à l'arrière du bateau.
Ouais, moins cool déjà. ou pareil, ne jamais faire de stop la nuit. J'ai tendance aussi à pas monter avec des mecs de mon âge. C'est souvent... je monte beaucoup avec des pères de famille qui me disent qu'ils ont des filles de mon âge et que je leur appelle leurs filles et tout ça, donc ça va plutôt safe, ou avec des femmes, ou je voyage aussi énormément avec des chauffeurs routiers, parce que ça me rassure beaucoup. Les chauffeurs routiers, en fait, ils ont un GPS dans leur camion, et en fait, dès qu'ils font une pause ou s'ils s'éloignent de leur route, tout est enregistré, en fait, et donc... Et donc en fait ils peuvent pas s'arrêter n'importe où, ils peuvent pas dévier de leur route. Et donc c'est un côté rassurant. Après j'avoue que aujourd'hui moi j'ai plus trop besoin d'être rassuré parce que même après 5000 km d'autostop, je ne suis jamais tombée sur une seule personne où je me suis dit ça le fait pas quoi. Ça m'est jamais arrivé.
Bon, et puis pour conclure, tu peux aussi choisir, par exemple, si tu fais du stop sur les autoroutes, sur les...
Les aires.
Les aires d'autoroute, tu peux carrément directement choisir les voitures dans lesquelles tu veux monter. Enfin, donc il y a quand même...
Ouais, carrément.
Là, c'est toi qui vas faire le...
Ouais.
le pas, le premier pas entre guillemets.
Ouais, ouais. Bah ouais, ça c'est mon moyen de trouver des voitures privilégiées, on va dire. Ouais, je me mets très très souvent sur des aires de repos et c'est vrai que c'est moi qui vais voir les personnes la plupart du temps. Mmh. Et puis même en fait, ça permet d'approcher la personne, de commencer à lui parler et c'est vachement rassurant aussi pour la personne en face de voir que bon bah. Je suis normale, je suis pas droguée, je suis pas aussi SDF, parce que c'est vrai que quand on voyage avec le gros sac à dos, bon bah il y a des gens qui se disent, enfin voilà, qui se demandent bon est-ce que
oui il peut y avoir une peur des deux côtés, hein, enfin même oui. Elle est souvent plus du côté du conducteur que
oui carrément
ouais.
Mmh. ouais
bon bah du coup tu nous donnes très envie de faire du de l'autostop et du bateau stop
et bah je vous y encourage.
C'est super, vive le stop.
Oui.
On va merci Émilie beaucoup d'être venue nous voir à la gratuiterie et puis d'apporter
et bah, avec grand plaisir.
Ton énergie positive et on va s'écouter un petit morceau de la chronique sur l'album Tâche de son. Donc, qui musique sous licence de libre diffusion, comme d'habitude, et qui est téléchargée sur la plateforme Jamendo. C'est parti, on envoie la musique.
Chronique. L'heure n'est plus à la fête, on verra après. L'époque oblige à marathonner le pèse. Elle oblige à remettre de l'ordre, à corriger là où ça bloque, à rester réveillé, à surveiller l'autre. Oublie nos jours fatigués, on veut notre billet pour une vie fade. Larguer ce qui nous les casse et nous retient d'être au top. Tape-toi la tête si tu te sens malmené sans armes. Nous on se la creuse, on veut pas être triste sans se battre. À vos sub du comptoir, mon 150 au favelas. Même si la rage l'habite, y'a moyen de sortir intact de là. Pas le droit de se mentir, si tu fais rien pour que tu t'en tires. Après toi à subir, mais pleure pas ta zermie. J'dis pas c'est simple, l'époque oblige au forcing. Plus le temps on s'esquinte, y'a aucune réussite endormie. Ici l'espoir garantit rien sans faire l'effort d'agir. Si on foire au moins entente, c'est dans l'effort qu'on se fortifie. C'est sport faire le bif, trafiquer ou à l'usine. Comme c'est sportif, te faire avec les poches vides. Ou tu supportes le casse-pipe, l'époque oblige. Ou tu supportes pas qui porte le poids d'une triste vie. Si on siffle du baisse facile, ridicules sont les chiffres. Sûrement à 100 000 degrés que moins que dans Scarface le film. Stop, connaît la fin, tu comprends, on a mieux à suivre. Faire du bénéfice sain afin de faire vivre une saine famille. L'époque nous oblige à rester réveillés, à corriger là où ça bloque, à marathonner les billets. C'est sportif, c'est l'époque qui l'oblige, vers le forcing, y'a pas de réussite endormie. L'époque nous oblige à rester réveillés, à corriger là où ça bloque, à marathonner les billets. C'est sportif, c'est l'époque qui l'oblige, vers le forcing, y'a pas de réussite endormie. 20 berger déjà KO, je veux plus manger des cailloux. Trop de battes dans nos rayons et ce temps tourne mais pas la roue. Le shit ça rapporte plus donc les plaques tournent aux cailloux. On n'est pas infaillible donc on espère au cas où. La chance deviendrait-je par de blême qu'on résout. Des droits qu'on retrouve et d'égalité pour tous. La vie c'est une bagarre, des fois tu perds, des fois tu gagnes. Il suffit pas d'avoir du punch pour être plus fort que les balles. 2006, y'a rien dans nos fleuves tranquilles. On voudrait s'en sortir mais c'est bloqué, chômage requis ici. On te regarde pas pour ce que t'es, on t'oublie pas si tu pèses. Qui t'a parlé de fraternité, la vérité. Nos sorts ça fait bloquer, ça peut choquer. Ça choque comme nos métiers car la rue recrute sans CV l'esprit. Assombri par les mépris, j'écris mes hier, prêt mes cris hier et tout ce que j'ai appris. L'époque nous oblige à rester réveillés, à corriger là où ça bloque, à marathonner les billets. C'est sportif, c'est l'époque qui l'oblige, faire le forcing, y'a pas de réussite endormie. L'époque nous oblige à rester réveillés, à corriger là où ça bloque, à marathonner les billets. C'est sportif, c'est l'époque qui l'oblige, faire le forcing, y'a pas de réussite endormie. On va de surprise en surprise, garantie faut de la reprise. Pour éviter crise sur crise, anticipe, organise. Les temps sont crispés, strict SP, spécialement stupide, tu s'y participes de loin ou de près. Le présent prédit rien, demain dépend de maintenant. On représente ce qui ont faim et demande rien à la chance. On renonce pas quand ça bloque, on sort ce qu'il y a sous le froc. Pas de bloc, mais du cran, car ça on fait pas grand chose. C'est l'époque qui oblige, je suis un impatient. Si je croque, je remercie qui, les mains tendues, y'en a pas sans. Seul au volant de ma vie, on n'a jamais réussi ensemble. Te questionne plus sur ma vie, tu m'as dans l'enceinte. L'époque nous oblige à rester réveillés, à corriger là où ça bloque, à marathonner les billets. C'est sportif, c'est l'époque qui l'oblige, faire le forcing, y'a pas de réussite endormie. L'époque nous oblige à rester réveillés, à corriger là où ça bloque, à marathonner les billets. C'est sportif, c'est l'époque qui l'oblige, faire le forcing, y'a pas de réussite endormie.
Et nous voici de retour. Après, si dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Donc une émission qui, je le rappelle, est consacrée à la gratuité et la culture libre. Et on vient d'entendre le témoignage d'Emilie sur un moyen alternatif et non marchand de naviguer, à savoir l'autostop et le bateau stop. Bon, il y en a sûrement d'autres, hein, l'avion stop, le delta plan stop, je sais pas, parapente. Et maintenant, donc, on va écouter Manuel de la recyclerie Quillan.
Bonjour.
Donc il va nous parler de cette recyclerie qui vient d'ouvrir assez...
Il y a une paire de mois à peu près.
Une paire de mois.
Ouais, de 17 décembre, la partie recyclerie ouverte et la friperie un petit mois avant.
D'accord, donc ouais, c'est quand même plutôt frais, on va dire.
Ouais, c'est pas encore périmé, enfin j'espère.
Donc j'imagine que là vous êtes dans une dynamique... qui doit être assez motivante, quoi. Enfin, le début, souvent dans les projets comme ça, il y a quand même une envie d'avancer assez rapidement.
Ouais, c'est un peu une course au long cours. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet à le préparer. L'ouverture le 17 décembre, donc ça fait maintenant une paire de mois, mais ça fait quand même 2 ans qu'on a préparé le local, séparé les deux locaux entre la friperie et la recyclerie. Aménager les locaux, récolter... En fait, on fait des chantiers pour financer le projet. C'est ça qui nous permet de financer tout le projet. On n'a pas de subvention. Donc la première étape, ça a été de... vu qu'on est tous dans le bâtiment, dans l'association à la base, c'était de pouvoir trouver des chantiers et mettre une partie de côté pour pouvoir payer un loyer. Et on est tombé sur un local où on nous proposait carrément, en fait, d'acheter plutôt que de louer. C'est l'ancien magasin boîte à chaussures à côté de Carrefour. Et du coup, on est en location-vente, et c'est nos chantiers et toutes les ventes de la recyclerie qui commencent un petit peu à rentrer, qui nous financent, qui vont financer l'achat de ce local. Donc on va dire que maintenant, oui, pour répondre à ta question, on était déjà bien booké pendant 2 ans avec les chantiers, à préparer le local, et maintenant que ça a ouvert, en fait, c'est un peu la suite logique avec l'activité vraiment de recyclerie qui bat son plein. Et ça fait des grosses journées et des grosses semaines.
Et donc tu nous dis que c'est pas subventionné ?
Non, pour l'instant.
Est-ce que c'est un choix ou vous voulez être autonome dans votre financement ou si vous pouvez, pour l'instant, c'est que vous avez pas eu l'occasion.
Déjà les subventions, ça prend beaucoup de temps. Et puis c'est pas subvention d'investissement, c'est assez rare. Il n'y en a presque pas. Et puis aussi un choix, c'est le choix de pouvoir vraiment faire comme on l'entend et puis d'avoir une certaine liberté dans ce qu'on veut faire et à pas faire de concessions sur le projet surtout. Et souvent les choses elles viennent quand on a moins besoin, donc on sait pertinemment qu'on va pouvoir commencer à monter des dossiers de subvention quand on aura plus de temps et quand finalement peut-être que l'argent sera pas notre... un besoin vraiment vital.
Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que finalement, dans des projets comme ça, il vaut mieux peut-être au départ le démarrer sur ses propres fonds ou...
Je pense, oui. Ouais,
et puis après, ouais. Espérer une aide...
extérieure, par exemple, par des bénévoles qui rentrent dans l'association et qui apportent leur concours. Mais déjà au début, le fait de ne pas avoir de subvention, ça permet d'avoir vraiment la réalité du terrain, de se rendre compte de ce qu'on veut, quels moyens on a, et puis vraiment de se creuser les méninges et d'être créatif dans ce qu'on propose aux gens. Parce que bon, si on a un projet, c'est aussi pour faire force de proposition sur un territoire et d'avoir le vraiment de saisir les opportunités qui sont utiles pour le projet et pour les acteurs du projet, quoi.
Et justement sur le projet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les finalités ? En fait, tout le monde ne connaît pas forcément une recyclerie. Je pense qu'il y a peut-être un peu de pédagogie à faire là-dessus, entre guillemets.
Ouais, le mot est un peu... le mot est un peu... Il sort aussi de son contexte. Il y a des gens qui ont déjà dit, bah, recyclerie, vous recyclerez les emballages ou les verres. Et on dit, bah non, pas du tout. En fait, on recycle les objets du quotidien. Donc nous l'idée recyclerie, alors on n'est pas une ressourcerie parce qu'on fait pas encore partie pour l'instant du réseau des ressourceries en France, donc on a décidé de s'appeler recyclerie et en fait on recycle tous les objets du quotidien, le mobilier, la décoration, l'outillage, tout ce qui est électroménager, les babioles, le côté friperie qui fait la fripe. La particularité du projet, c'est qu'on a voulu séparer en deux, c'est-à-dire que la fripe, c'est un métier à part entière. On a pu proposer à une commerçante de Limoux de rejoindre notre projet en louant une partie du local à très, très, très moindre coût pour qu'elle puisse ouvrir sa friperie. C'est beaucoup de boulot, les vêtements, donc ça nous permet d'avoir vraiment quelqu'un qui est expert là-dessus. Et nous, on fait tout le côté ameublement, électroménager, comme je l'ai dit, l'outillage, que sur du don. Et sur du vide maison qu'on propose dans l'ensemble du bassin qui y en est, sur prix libre pour aller chercher les meubles dans les maisons. On demande à billet vraiment de manière, on va dire, ce que les gens veulent bien donner. En fait, on demande rien, mais si les gens donnent un billet, les bénévoles sont toujours contents d'avoir un petit billet de 10 euros, 20 euros, 30 euros pour pouvoir aller faire les courses ou acheter un paquet de tabac à la fin de la journée, sachant que les journées sont longues. Ça permet en fait de donner un petit peu du cœur à l'ouvrage, quoi.
Et c'est-à-dire que du coup dans là si on compare par rapport à d'autres par rapport à d'autres organisations du même type, souvent ils demandent de faire payer le fait de venir chercher des affaires encombrantes ou des affaires plus courtes.
J'ai pas envie de faire j'ai pas envie de forcément faire des ad nominem, de dire
non non bien sûr, mais c'est pour une comparaison sur les modèles économiques.
Mais généralement oui, demande, ouais. Généralement c'est à l'heure. Nous, on a fait le choix pour l'instant de pas le faire. Peut-être qu'à terme on le fera, parce que en fait c'est souvent parce que il faut aussi éduquer les gens, c'est que les gens ils peuvent des fois un petit peu abuser en disant tiens, vous pouvez emmener ça à la déchette s'il vous plaît, je vous ai des meubles. On surtout va faire un peu le sale boulot, et c'est peut-être pour ça que certaines structures ont décidé de faire payer ça à l'heure pour pouvoir vraiment quantifier le travail. Nous, pour l'instant, on est vraiment sur on essaie de faire en sorte que qu'est-ce que moi je voudrais en fait quand je vais à la recyclerie dans un magasin, donc comme une recyclerie, si par exemple un objet si par exemple je me dis c'est un peu abusé, ils sont dans la même ville que moi, ils vont me demander 20 balles, 30 balles, ça me fait chier, je préfère ne pas leur demander de me livrer ou d'aller chercher des meubles. Donc je me dis ce que moi je voudrais pour moi, j'essaie de le faire aussi pour les autres. Et c'est pareil pour les prix qu'on met dans le magasin, on essaie d'avoir vraiment des prix qui nous paraissent intéressants et de pouvoir aussi même pourquoi pas proposer des choses gratuites quand on les a vraiment en double ou en beaucoup d'exemplaires, où on sait qu'en fait il y a pas vraiment une forte demande, mais qu'en fait si c'est gratuit, comme par hasard, les gens vont s'en saisir beaucoup plus facilement.
Et ça se vérifie en pratique?
Complètement, ouais. Encore la semaine dernière, on a eu beaucoup de jouets d'enfants, des puzzles et beaucoup de bouquins que j'ai triés qui vraiment à la vente partent pas, parce que c'est des bouquins de poche, des choses qui partent à très très à 10 centimes, 20 centimes, mais on a un stock énorme. On essaie de les mettre dans un endroit qu'on a dédié à tout ce qui est gratuit. Et ça se vide dans la semaine, les jouets sont partis, les bouquins, quelques-uns sont partis, même les gens des fois rentrent, font un tour, et puis ils connaissent pas, et puis ils achètent rien, souvent c'est ça, ils regardent un peu, ils sont un peu curieux, mais ils partent toujours avec un bouquin, un jouet, une fringue, quelque chose de gratuit. Et donc nous, on est super contents aussi parce qu'on n'a pas non plus un local extensible, donc ça permet aussi d'épurer un peu des choses, et puis ça permet aussi que des objets qui seraient peut-être destinés à être jetés repartent dans le, entre guillemets, auprès d'utilisateurs, et puis permettent de faire des heureux, quoi.
Oui, tout simplement. Enfin,
c'est ça, c'est surtout ça, faire des heureux, quoi. C'est un peu l'idée, c'est que de se dire, on a plein de choses. Il y a quelqu'un on a des objets de puriculture depuis bien un mois et demi, deux mois, je les entasse sous une étagère. Et là, il y a quelqu'un qui m'a demandé sur Facebook, est-ce que vous avez des objets de puriculture? Je vois, on en a plein, venez les voir. Ah, je vais venir cette semaine. Et si elle veut tout prendre, elle prend tout, avec plaisir, quoi.
D'accord. Bon à savoir, donc du coup, la ressourcerie de Quillan, on peut dire que vous avez créé une zone de gratuité, quoi.
Il y a complètement une zone de gratuité dans la ressourcerie de Quillan. Bon. Des bouquins, des objets de puriculture, de la déco, des machines à café, beaucoup de machines à café.
Oui.
Parce que les gens, maintenant, ils ont du Senseo ou le retour des cafetières à pistons, ce genre de choses. Et les cafetières qu'on connaissait quand on était plus jeunes, les gens n'en veulent plus.
Alors ça me met un peu la puce à l'oreille sur une question, une critique qu'on pourrait peut-être faire, entre guillemets, d'ailleurs aussi bien aux espaces de gratuité qu'aux recycleries, c'est est-ce que ça peut pas servir un peu... Bon, j'imagine qu'un des objectifs, c'est quand même de pousser au réemploi des objets.
Oui.
Et est-ce que là, on n'est pas dans des logiques où finalement, on se débarrasse un peu en bonne conscience d'objets qui sont passés de mode, mais qui sont encore fonctionnels, pour en racheter du neuf, quoi. Donc, est-ce que à ce niveau-là, on...
Ah ben,
Voilà, tu vois ce que je veux dire.
Ah ben, c'est complètement... on est dans une logique de consommation. Je pense qu'en tant que citoyen européen, on a été quand même... Enfin, occidentaux, on a quand même été éduqués comme ça. Les gens sont éduqués comme ça. Il y a un côté où clairement ces objets ont du game de seconde main. En fait, ils ont du succès. Pourquoi ? Parce que en fait, quand les gens rachètent une machine à laver ou un lave-linge ou que sais-je, un canapé, ils vont le donner. Enfin, ils vont le jeter. Et s'il y a des structures comme nous qui peuvent le réemployer, bah, forcément, nous, ça nous fait aussi un peu, ça nous fait vivre. Mais on est clairement en train d'utiliser une logique capitaliste de consommation. Ça, c'est sûr.
Parce que la par rapport à disons à d'autres enfin disons Emmaüs hein, pour rester sur un truc plutôt large, ce modèle de fonctionnement où c'est plus l'idée c'est de faire plutôt de la réinsertion à travers du réemploi. Vous, est-ce que vous êtes dans cette logique là ou c'est pas forcément votre cheval de bataille, vous êtes plus sur une logique environnementale?
Ouais, la réinsertion, c'est clairement pas notre objectif pour l'instant. Déjà, ça marche à base de subventions. Y a quand même des gros budgets de subventions par rapport à ça. Et puis tout simplement, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est de pouvoir reconditionner les objets, les revaloriser et les réparer. Et on a envie de créer une équipe un petit peu, on va dire, pérenne dans le temps. Ça n'empêche pas que si on a la chance d'être toujours là et d'être motivé dans une paire d'années de faire un peu de réinsertion, l'idée c'est pas de devenir une machine entre guillemets à réinsertion, sachant qu'en fait on réinsère personne puisque sans vouloir critiquer un système qui fonctionne, hein, dans les 6-8 mois, et ben les gens soit ils sont assez on va dire dégourdis pour créer leur propre structure avec ce qu'ils ont appris pendant entre guillemets leur stage de réinsertion, soit ils retombent entre guillemets dans la routine journalière de régions qui ont souvent pas forcément d'emploi à proprement parler.
Alors voilà. Ouais, pour aller dans le sens de ce que tu dis, il me semble que je sais plus comment on appelle ça, peut-être le taux de sortie, enfin je sais plus, mais en fait c'est très faible, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est-à-dire c'est vraiment sur du court terme, le temps où les personnes travaillent dans ces... Mais après, généralement, il n'y a pas de sortie de la précarité, au contraire. Hein. Enfin, au contraire, je ne sais pas, mais en tout cas...
Bah, nous, le modèle, justement, c'est un peu... En fait, ça rejoint... Enfin, nous, sur le projet, l'idée, par exemple, Lily, qui est sortie du parchemin, Lily de la friperie, qui est sortie du parchemin, avait monté sa boutique à Limoux. Et puis après, faute de local qu'elle a perdu, elle n'avait plus de local, elle galérait un peu. C'est une amie commune qui nous a présenté. Et nous, on a pu, parce qu'on avait un peu le projet, qu'on avait les sous derrière, parce qu'on avait notre modèle économique qui fonctionnait, lui proposer un local vraiment à pas cher, où en fonction de ce qu'elle gagne, elle peut nous payer. Et puis quand ça sera périn, elle nous payera un vrai loyer. Pour le moment, elle donne ce qu'elle peut. On l'a marqué ensemble. Et nous, l'idée du projet plus tard, c'est en s'agrandissant, c'est de pouvoir proposer à des artisans, des gens qui ont besoin d'ateliers, de nous rejoindre et de se servir du bassin de réemploi de la recyclerie pour créer des objets, pour retaper des objets et pouvoir, pourquoi pas, les vendre et créer une activité qui puisse leur permettre de vivre. Et du coup, on serait plus sur, pas de la réinsertion, mais disons de l'accompagnement d'intégrer des gens dans notre projet pour qu'ils puissent en tirer profit et que la recyclerie puisse en tirer profit aussi en proposant autre chose que simplement de la revalorisation tout simple d'objets, mais pourquoi pas de la création d'objets artisanaux ou de l'accompagnement pour de la clientèle qui cherche la menuiserie pour chez elle, sur des particuliers. Là, par exemple, il y a un collègue qui est à fond sur le bois, et ben, quand on a un petit peu d'argent, là, on a acheté par exemple un tour à bois pour qu'il puisse monter un atelier bois, qui pour l'instant n'est pas là, mais d'ici un semestre, on espère pouvoir aménager un des locaux vides pour pouvoir en faire un atelier bois, pour lui, et éventuellement pour des gens qui rejoindraient le projet. Mais pas de la réinsertion, on va dire poubelle, quoi, où en fait c'est 6 mois d'affilée, et puis ensuite la personne, quand elle sort du dispositif, elle n'a pas forcément un suivi derrière pour lui permettre de créer quelque chose qui ressemblera à ce qu'elle a appris pendant son passage à une ressourcerie ou une recyclerie. Même si le modèle d'Emmaüs, j'ai envie de dire, propose quand même quelque chose que personne n'a proposé encore en France et qui est quand même... voilà, quoi. Enfin, je pense qu'il ne faut pas cracher dans la soupe non plus, quoi.
Non, non, mais c'est important d'essayer peut-être de comparer ces différents modèles de réutilisation des objets de seconde main qui sont basés sur l'économie marchande. Alors, à ce que tu nous dis, bon, il y a quand même l'économie non marchande a tendance un peu à ça. Enfin, j'ai observé effectivement aussi dans des recycleries à Paris, que bon, les livres étaient à prix libre, hein, par exemple. Et il y avait une petite zone de gratuité devant. Enfin, ça, on sent. Voilà, ils donnent des affaires aussi aux, des vêtements aux personnes en situation de précarité. Enfin, il y a ça gagne du terrain, on va dire. Cette façon d'échanger dans les.
Il y a un volume tellement important que c'est la meilleure solution. C'est un peu l'offre et la demande finalement. Enfin, il y a tellement de choses qui sont jetées. Qui sont en état de marche ou qui sont chouettes, qu'en fait, à un moment donné, on ne va pas tout vendre, il faut le donner, parce ouais. qu'en fait, on disait que peut-être la dernière richesse qu'on a en Occident, c'est tout ce que les gens jettent, parce qu'en fait, on ne produit pas plus grand-chose. Je crois qu'il y a pas longtemps, j'ai entendu que la France, industriellement, c'est 12% hein. de son PIB, c'est-à-dire c'est rien, on ne produit plus rien, mais par contre, on consomme comme des ânes, entre guillemets, donc on peut vraiment donner plein de choses aux gens, et quand je vois la déchetterie, tout ce qui est jeté, c'est hallucinant.
Ouais.
C'est hallucinant.
Du coup, ça s'inscrit quand même dans le mouvement zéro déchet, votre démarche ou,
On aimerait vraiment, mais on est obligé quand même de. En fait, on a vraiment la piqûre de rappel tous les jours de. En fait, on vit dans un monde qui consomme et quoi qu'il arrive, on sait pas. Enfin, il y a énormément de choses qui sont jetées et on peut pas vraiment. On peut pas nous-mêmes, en fait, arriver à tout reconditionner, c'est pas possible.
Mais est-ce que, donc par exemple, un des objectifs secondaires, au moins, ça pourrait pas être de créer des communautés autour de certains types d'objets, avec des activités un peu annexes, qui permettraient de revaloriser, entre guillemets, tu vois
genre des ateliers de réparation, ce genre
des ateliers, ou je sais pas, par exemple, des défilés de mode avec des fringues de seconde main.
Ouais, oui, pourquoi pas.
Faire des pour aller plus loin, quoi, quelque part.
Faire des salles de gamers avec des vieux PC.
Ouais, voilà.
Des yeux, ça peut être, peut être ça. Créer. Je pense qu'en fait, il faut créer. Il y a des choses à créer, c'est clair. Il y a des choses à éclairer. Et là, de loin, avant qu'on le projet ouvre, on se dit ouais, on va pouvoir faire ci, faire ci, faire ça. Et en fait, le flux est tellement important.
Que vous êtes débordé un peu.
On dirait pas qu'on est débordé, mais c'est que on n'a pas vraiment le temps de faire autre chose.
Ok.
On peut pas se dire tiens, on a sur des aménagements intérieurs qu'on a à faire pour la recyclerie, on prend un peu de retard. Bon bah c'est comme ça, c'est pas grave. Mais c'est toujours une victoire de pouvoir faire un aménagement en plus parce qu'en fait les gens ils amènent des choses. Nous-mêmes on nous appelle pour faire des vies de maison et on n'est pas des milliers des cents. Donc ouais le temps est une denrée. C'est le temps la denrée la plus précieuse finalement.
Ouais, bon, on va éviter le temps, c'est de l'argent.
Non, c'est sûr.
C'est interdit dans l'émission. Ça. Le mot argent est prohibé normalement, mais. Oui, donc. Ouais, alors après, bon, moi, je me posais la question quand même. Bon, quel est l'intérêt ? Ah, je posais un peu une question piège là, mais quel est l'intérêt d'une ressourcerie par rapport à, on va dire, des systèmes plus décentralisés comme les vides-greniers ? Est-ce que voilà,
c'est une super question. C'est une super question.
Par exemple des réseaux de bah, comme le Bon Coin. Enfin, bon, je vais pas faire de publicité, mais disons des réseaux de vente d'occasion sur Internet.
Alors le grand truc, c'est au niveau de la logistique. Bon, c'est un peu technique peut-être, mais c'est juste ça fait des zones tampons. C'est-à-dire qu'en fait, une recyclerie, c'est une zone tampon, donc d'où l'importance d'avoir beaucoup, beaucoup, et ce que Emmaüs ont très bien compris, c'est d'avoir des zones énormes, c'est-à-dire de pouvoir, en fait, tout le temps apporter du flux d'objets, que ce soit par des vies de maison, par des dons, par des passages en déchetterie, et donc de pouvoir, en fait, stocker. Parce que des fois, on a des choses sur les bras, et en fait, la personne qui va s'en saisir à très bas prix parce qu'elle a envie de ça, c'est peut-être que dans 2-3 mois qu'elle va venir. Et d'un coup, des fois, c'est un peu la loi des séries. On a, par exemple, en ce moment, on a plein de lits. Et bien, peut-être que dans 2 semaines, il va y avoir 4 personnes d'affilée qui vont vouloir acheter des lits. Et on n'aura plus de lits. Mmh. Mais tant qu'on n'a pas la place, si on n'a pas la place pour les stocker, ben, ces lits-là sont jetés et de toute façon, ne seront jamais réutilisés. Donc, disons que l'avantage, c'est l'autre de proposer quelque chose de ponctuel comme un vide-grenier ou le Bon Coin où il y a, pour le coup, un délire d'argent. Mais surtout, en fait, c'est de manière très ponctuelle. La recyclerie, le défi, c'est de proposer quelque chose qui est là au long terme et qui permet à des visites tout au long de la semaine, tout au long de l'année, et du coup d'avoir une zone tampon où on peut stocker et revendre à très bas prix.
Et puis alors peut-être tout simplement aussi bien souvent on peut aller déambuler dans ce genre de
complètement.
De lieux, simplement, et puis ça donne des idées, quoi. Voilà. Ce qu'on n'aurait pas, je veux dire...
Ouais, il y a vraiment tout, il y a de tout.
Bon, on se dit dans les vide-greniers aussi, mais...
Oui, non, voilà, ouais. Le vide-grenier, c'est comme une brocante, en fait, finalement, où on rajoute un petit côté plus magasin, où on essaye les frigos qui rentrent, moi, je vais nettoyer un frigo, quand on fait le sien, c'est une chose, quand on fait plein de frigos, on se rend compte que c'est très long. Nettoyer un frigo, c'est super long, et puis c'est super chiant, quoi, mais on est content qu'après, les gens, pour 50 balles, ils aient un frigo qui fonctionne, qui soit propre, et qui se disent, bah tiens, avec 50 euros, en fait, j'ai un pouvoir d'achat. Avec 30 euros dans le magasin, je rentre, je peux vraiment acheter des fringues, tiens, acheter cette babiole-là, tiens, il y a une bouilloire à 4 euros, je vais la prendre. L'idée, c'est vraiment de revaloriser l'euro, c'est vraiment de permettre à des gens d'avoir l'impression d'avoir des sous, et de pouvoir s'équiper pour pas cher. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est pour ça que je le fais, c'est vraiment pour pouvoir... Les gens, quand ils rentrent dans le magasin, ils aient une sensation de retrouver peut-être... voilà, je veux dire, ce qu'on a perdu avec le franc, c'est-à-dire avoir vraiment l'impression de bien gagner sa vie et de pouvoir en profiter.
D'accord. Bon, bah écoute, merci Manuel hein, pour toutes ces précisions. Et puis, longue vie aux recycleries. Mmh. Et puis, on espère que la gratuité gagnera de plus en plus de place hein, dans ces dispositifs. Mais bon, à mon avis, c'est un peu le cas déjà.
Ouais, c'est clairement le cas.
Donc on va s'écouter maintenant un morceau de musique lofi pour changer. Qui s'appelle Lofi Anime et qui est de Vezen Instrumental Beat. C'est parti. Allez, c'est reparti sur Radio Balade. On a encore une petite dizaine de minutes à parler de choses et d'autres sur la gratuité et la culture libre dans l'émission Entrée sans payer. Donc, oui. On est en compagnie de Fred et de Manuel de la recyclerie de Quillan. Et on s'est dit qu'on allait terminer en parlant un peu de l'actualité, et notamment, évidemment, en ce moment-là, c'est la guerre en Ukraine.
Alors, oui, la guerre en Ukraine. Alors, l'Ukraine, où est-ce que ça se trouve? Eh bien, c'est au nord de la mer Noire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un territoire, une terre de blé, de céréales, et aussi de charbon, dans le Donetsk, justement, là où ça part un peu le conflit, il y a beaucoup de charbon. Voilà, c'est un territoire qui a été partagé entre l'Empire russe et l'Empire ottoman. Première indépendance lors de la Révolution russe en 1917. République populaire d'Ukraine, voilà. Deuxième indépendance en 1991. Mmh. Voilà. Et alors ensuite, y a eu plusieurs révolutions. Alors la révolution de 2014, voilà. Avec des changements de président. Un président pro-russe destitué. Alors il faut savoir que oui, en Ukraine, on parle ukrainien et russe. Mais il n'y a pas de communauté ukrainienne ou russe. C'est vraiment mélangé, hein, d'après ce que j'ai compris. Mmh. Alors, pourquoi est-ce qu'ils se battent
De quelle version on va parler?
Alors, en fait, ce qui s'est passé en 2014, c'est qu'il y a eu la Crimée, qui est un autre territoire ukrainien, qui a déclaré son indépendance, en fait, hein, par voie de référendum, et du coup, qui s'est retrouvé dans la Fédération russe, quoi. Alors, faut savoir que les Américains ont des intérêts en Ukraine. 2,14 milliards d'investissements. C'est un peu, en fait, d'après ce que j'ai compris, eux qui provoquent, en fait, cette guerre dans un contexte géostratégique de lutte avec la Chine, en fait. Bon, alors voilà.
Oui, c'est d'accord. C'est
un terrain de bataille, en fait, entre... a priori, on pourrait voir ça comme ça, un terrain de bataille entre les États-Unis et la Chine. Mmh. Voilà,
par le biais de la Russie et de l'Union européenne.
Voilà, ouais, c'est ça. Disons que la stratégie des États-Unis, ça serait de diviser ses adversaires, l'Europe, ses adversaires économiques. C'est une guerre économique.
Mais alors, comme on en parlait pendant la petite pause, là, donc c'est vrai qu'il y a la question du don n'est pas complètement absente. Au contraire, dans ces conflits armés, et il y a notamment des dons. Alors ça interroge peut-être sur la limite de qu'est-ce qu'on peut donner ou pas, quoi.
Oui.
Parce que donc il y a un don d'armes qui est fait aux combattants ukrainiens, et on peut se demander si c'est pas mettre un peu l'huile sur le feu.
Mais... Exactement, ouais. On peut pas trouver de meilleure expression.
Et voilà. Et aussi du point de vue de la culture libre, bon là on est. Aussi bien en Union européenne qu'en Russie, hein. Je pense que c'est important de rappeler que dans des situations de conflit ou de guerre comme ça, une des premières choses qui est mise à mal, c'est les outils de communication, quoi. Il y a un contrôle assez rapide.
Ouais, c'est ça.
Par exemple, donc l'Union européenne veut supprimer deux médias financés par le gouvernement russe.
Sputnik et RT.
Voilà. Ouais. Pas RT, non.
RT,
ouais. RT, ça serait plutôt dans l'autre sens. Et donc, ça, c'est une vraie question, parce que en tant que citoyen européen, on a peut-être le droit aussi d'avoir accès à des informations contradictoires.
Oui, tout à fait. C'est sûr que moi je suis allé voir Sputnik, c'est pas le même son de cloche, quoi, que...
Voilà, mais c'est pas le même son de cloche, mais c'est aussi ça qui est défendu dans le principe de la culture libre, c'est des libertés de l'information, c'est que chacun puisse s'exprimer, quoi. Comme dans, on va dire, dans un débat dans le cadre d'un procès ou un truc comme ça. Il faut à un moment donné qu'on puisse entendre les deux parties, sinon...
Ouais.
Donc, bah non, hein, c'est inutile de, d'empêcher l'accès à des journaux étrangers. Enfin, c'est inutile en tout cas, du point de vue en tant que citoyen, moi personnellement, je m'y oppose.
Ça me rappelle Victor Hugo qui disait « Il n'y a pas de guerre sans guerre de l'information ». Donc,
ouais. Déjà à l'époque, ouais.
Déjà à l'époque, il s'est déjà saisi bien que, comment ça fonctionnait certaines choses. Et là, on a vraiment ça, quoi. Moi, je ne suis pas spécialement pour RT ou pour Spoutnik.
Mais, moi non plus, hein.
Mais il y a quand même, si on a envie de regarder un peu ce que dit, la télé à Poutine, bah pourquoi pas.
Ouais.
Ça change un peu de musique.
Tout à fait.
Et alors je vais terminer par une petite citation, parce que ça me paraît approprié. Donc de John Stuart Mill, dans son livre de la liberté. Ce qu'il y a de particulièrement néfaste à imposer silence à l'expression d'une opinion, c'est que cela revient à voler l'humanité. Tant la postérité que la génération présente, les détracteurs de cette opinion davantage encore que ses détenteurs. Si l'opinion est juste, on les prive de l'occasion d'échanger l'erreur pour la vérité. Si elle est fausse, ils perdent un bénéfice presque aussi considérable, une perception plus claire et une impression plus vive de la vérité que produit la confrontation avec l'erreur. Il se peut que l'opinion qu'on cherche à supprimer soit vraie. Ceux qui désirent la supprimer en contestent naturellement la vérité. Mais ils ne sont pas infaillibles. Il n'est pas leur pouvoir de trancher la question pour l'humanité entière, ni de retirer à d'autres qu'eux les moyens de juger. Refuser d'entendre d'opinions sous prétexte qu'ils sont sûrs de sa fausseté, c'est présumer que leur certitude est la certitude absolue. Étouffer une discussion, c'est s'arroger l'infaillibilité. Bon, voilà.
C'est complet.
Comme ça. Voilà, donc on termine par un morceau qui n'est pas sous licence de libre diffusion, pour une fois, de Duval MC, qui s'appelle « Quand j'entends le mot France ». Et merci à tous de nous avoir écoutés dans l'émission Entrée sans payer. Merci Manuel pour ton intervention. Merci Fred.
Super, merci.
Et merci Radio Balade. À bientôt.
Mon identité n'est pas nationale. Mon identité est politique. Je suis un héritier. Je suis le résultat d'une histoire. Mon identité n'est pas nationale. Ouais, écoute mon style.
Quand j'entends le mot France, j'ai les dents qui grincent. Comme quand ils disent que ma ville est en province, un territoire conquis. Quand j'y pense, on nous l'a montré en carte toute notre enfance. Quand j'entends le mot France, j'hallucine. Elle me fait peur, la France, avec ses commandos. Normal qu'elle ait toujours le nez dans ses racines, avec les millions de morts qu'elle a sur le dos. Elle me fait flipper, la France, avec ses droits de l'homme, qu'elle respecte autant qu'elle respecte l'atome. Une démocratie qui maintient tant de tyrans. T'appelles ça comment, côté t'es pas au courant. La fiction est loin du réel, informe. Nous sommes sous un régime de marchands d'armes. Alors cherche pas plus loin si tu veux m'insulter. Appelle-moi français.
Démanteler la France, faut qu'on se bouge. Faut pas laisser ce régime de mort à l'amion. Le monde en a assez du bleu blanc rouge. Il faut tourner la page et rincer le pinceau. Démanteler la France, faut qu'on se bouge. Faut pas laisser ce régime de mort à l'amion. Le monde en a assez du bleu blanc rouge. Il faut tourner la page et rincer le pinceau.
Quand j'entends le mot France, j'ai mal à la face. Elle m'horripile, la France, avec ses FAMAS, ses Mirages, ses Falcons, ses mines et ses gaz, ses hypermarchés qu'elle construit sans cesse. Quand j'entends le mot France, j'ai mal au ventre. Pour tous ces sans-papiers à qui on pourrit la vie. Faire la queue à la préf, flipper quand tu rentres. Et Carrefour paye une misère, le coton du Mali. Tu vois pas la frontière, elle est sous le képi. Exploité là-bas, exploité ici. Restauration, bâtiment, contrat omis. Une rafle à l'occasion pour l'électorat nazi. Et n'allume pas la télé où là tu vomis. Sevran, Zemmour, Hortefeux, Stevie. Comme le discours de Dakar de Sarkozy. Niveau PMU 24 de QI.
Faut démanteler la France, faut qu'on se bouge. Faut pas laisser ce régime de mort à l'amion. Le monde en a assez du bleu blanc rouge. Et retourner la page et rincer le pinceau.
Quand j'entends le mot France, je pense à ces gars sans but, sans amour, sans ambition, qui vont passer le concours de la famille Poulaga, de CRS ou de soldats dans la Légion. Et pour moi la France, c'est Le Pen et Madeleine. C'est le roi Merlin, Haussarin, c'est Pétain. C'est les penseurs en bois du siècle des Lumières qui nous parlaient de race inférieure. Dans les villes de France, j'ai la gerbe. Plus de panneaux de pub que de brins d'herbe. Toute une architecture anti-regroupement. Les boulevards haussmanniens, les bancs anti-mendiants. Les théâtres nationaux contrôlés par Paris. Les noms d'assassins en guise de noms de rue. L'État donne des milliards à Peugeot et Renault. Mais les transports gratuits, c'est pas pour bientôt.
J'entends le mot France, j'ai l'Arshuma. Pour Saint-Domingue, pour le Biafra, pour le sordide Itsembaboko du Rwanda, pour la bande à Chirac de violeurs à Brazza.
Faut démanteler la France, faut qu'on se bouge. Faut pas laisser ce régime devant un million. Le monde en a assez du bleu blanc rouge.
Quand j'entends France, mes larmes sont pas loin. Je repense au 17 octobre 61. Marianne a tellement de sang sur les mains. Et quand on siffle l'hymne, ils en font un foin. J'en peux plus de les entendre dire France. Quand ils parlent de grands philosophes de culture, le massacre des Bassa au Cameroun, tu penses que Molière y poserait sa signature? Quand j'entends France, j'ai mal à l'histoire. Ce mot civilisation dont les pires se parent, qui pacifiait les peuples autochtones. Il pille encore des millions de tonnes. Mais qui est français au fond personne. On est juste des bonnes femmes, on est juste des bons hommes. On veut un brin de soleil et une part d'air pur. Et on parle une langue qui change tous les jours.